Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Audio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Je vous l'avais évoqué lors de la dernière émission, dans cette nouvelle saison de Qui ou Quoi, on va essayer d'évoluer. Premier essai d'évolution ce soir, Qui ou Quoi se présente sous la forme d'un cercle. Je m'explique. En fait, une fois par mois, je vais être rejoint par un ou des co-religionnaires. Pour l'instant, ça va surtout être un. Et on va se pencher sur un ou des ouvrages choisis en concertation, ou pas d'ailleurs. On ne s'interdit pas d'ailleurs de s'imposer des livres. Débat, avis contradictoire, voire même qu'on sera d'accord. Bref, le cercle de qui ou quoi, c'est un peu le masque et la plume de Radio Audio, mais en mieux bien sûr. Ce soir, je suis accompagné de Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Axel.
Le cercle de qui ou quoi, c'est maintenant. Je vous l'avais aussi dit la dernière fois, dans qui ou quoi, on aime la bande dessinée. Et je vous le donne en mille, ce soir pour le premier cercle, on parle de bande dessinée, mais pas de Spirou ni Tintin et encore moins d'Astérix. Ce soir, on vous parle d'une BD chinoise, la très justement nommée « Une vie chinoise » de Li Kunwu et Philippe Autier, une bande dessinée parue en 3 tomes aux éditions Kana dans la collection « Made in ». Je vais vous faire un rapide résumé de l'histoire, mais donc une vie chinoise nous raconte la vie de l'auteur, donc Li Kunwu, de sa naissance en 1955 dans la Chine maoïste à aujourd'hui. Je vous la fais courte, en fait je vais m'arrêter là, pour ne pas trop en raconter parce que je pense qu'on va pas mal revenir sur certains points de sa vie justement, et puis on va essayer de pas trop vous spoiler tout de suite parce que j'avoue que moi je déteste le spoil, mais ça c'est un autre débat. Donc Vincent, pour ce premier cercle, c'est toi qui as choisi cette bande dessinée. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu l'as choisie ?
Eh bien, Axel, pour tout te dire, pour moi, l'histoire de la Chine du XXe siècle se résumait au film de Bertolucci, Le Dernier Empereur. Et puis, j'avoue que je ne connaissais pas d'auteur chinois. Pour moi, en plus, la BD, j'ai envie de dire, il y a 15 ans, ça se résumait à la BD américano-franco-belge et les mangas japonais. Et c'est toujours réjouissant de découvrir, grâce aux bibliothèques, pour leur rendre hommage, des auteurs d'autres pays. Donc, en plus, il y a une personne là, qui m'a parlé et qui m'a dit « Ah bon, on fait de la BD en Chine ?» Non, parce que c'est vrai que moi, j'ai des a priori, comme beaucoup. Pour moi, je me dis, la Chine, ça incarne la dictature totale. Et donc, choisir Li Kunwu, c'était avoir un point de vue, le point de vue d'un Chinois sur son histoire. Et ça m'enthousiasme totalement.
Ok, et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les auteurs de cette BD, donc Li Kunwu et Philippe Autier? Je propose que tu commences par Li Kunwu.
Alors, Li Kunwu, il est né dans la province du Yunnan. Ne me demandez pas de situer, je ne suis pas très bon en géographie. Li Kunwu, c'est un manhua jia. Autrement dit, retenez, dessinateur chinois, voilà. Un des rares artistes chinois de sa génération à s'être tout au long de sa carrière exclusivement dédié au 9e art et à en vivre. Et oui, ça fait plus de 30 ans que Li Kunwu dessine. D'abord, il était spécialisé dans la BD de propagande. Et puis, Ensuite, il a, au début des années 80, il a eu l'opportunité en fait, de dessiner pour le quotidien du Yunnan, le Yunnan Ribao. Donc il a œuvré dans ce journal pendant plusieurs décennies. Et puis, il faut savoir aussi que Li Kunwu est membre du Parti communiste chinois. Il a été, donc ça, on ne va pas tout, comme tu dis, spoiler. Quoi.
Ouais, on en reparlera plus tard.
Et puis, comment est arrivé Li Kunwu en France? C'est suite à une rencontre avec, donc avec Philippe Autier.
Qui est l'autre auteur de la bande dessinée. Donc,
qui est l'autre auteur. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire sur Philippe Autier.
Ouais, okay.
Donc il a écrit en collaboration avec Li Kunwu. Mmh. Moi, en ayant lu le tome 3, en fait, Li Kunwu, très honnêtement, montre en fait, le travail qu'a fourni Philippe Autier, à savoir, il a joué un rôle très important, en fait, dans... il a traduit Li Kunwu pour les Français.
D'accord.
Et il a aussi organisé le découpage des scènes. Et c'est lui qui est un petit peu à l'origine aussi de la rencontre avec l'éditeur français Yves Schlierf. De Cana, quoi.
D'accord.
Donc, et puis, je pense que Philippe Autier a beaucoup influencé, en fait, sur la liberté de ton de Li Kunwu.
D'accord.
Parce qu'il faut quand même imaginer que Li Kunwu, dès le plus jeune âge, en fait, avec des parents qui étaient déjà membres du Parti communiste, il était... Il était endoctriné.
Ouais.
Donc, c'est ça qui. D'ailleurs, c'est un point qui me fascine complètement. Quoi.
Ouais,
bon, on va le développer plus tard. Quoi.
Ouais, voilà. Sur lequel il revient beaucoup dans la bande dessinée.
Voilà. Et ben, musique, monsieur.
C'est vrai qu'on va donc marquer une première pause dans Qui ou Quoi avec un petit morceau de punk qui n'a aucun rapport avec la Chine.
We'll be right back.
est de retour dans Qui ou Quoi sur Radio Théo et on continue à vous parler de livres. On va vous parler plus précisément d'Une vie chinoise de Li Kunhu. Donc Vincent, moi j'ai parlé de l'histoire, on a parlé des auteurs, Li Kunhu et Philippe Autier. Entrons donc maintenant dans le vif du sujet. Et si tu nous disais un peu ce que t'en as pensé ?
Moi j'ai pris une véritable claque quand j'ai découvert les trois tomes de d'une vie chinoise. Déjà parce que le style de Li Kunhu, bon, c'est une bande dessinée qui est en noir et blanc, il faut le préciser quand même pour les auditeurs.
Et vrai, on ne l'a pas encore précisé.
Ouais, non, on ne l'avait pas précisé. C'est pas une BD en couleur. Et ça reprend pas les codes habituels qu'on peut rencontrer, enfin moi que je rencontrais dans les mangas ou le peu d'auteurs asiatiques que je connaissais. Je trouve qu'il a un style qui se rapproche de Fred, l'auteur de Philémon. C'est un style qui est outrancier, avec beaucoup de. Je ne sais pas si Li Kunhu a. Je pense qu'il a beaucoup travaillé au niveau de la caricature. Tous ces personnages, ils ont des mouvements très excessifs. C'est pas quelqu'un qui respecte les perspectives. Et pourtant, tout fonctionne, tout tient dans la planche. Mmh. Pour moi, je trouve que c'est extrêmement lisible. Et ça foisonne littéralement de visages, de personnages. Il nous met parfaitement dans l'ambiance. Enfin, moi, de ce que je pourrais imaginer de la Chine, c'est-à-dire un pays quand même d'un milliard d'habitants.
Merci de le préciser. Oui.
Et toi, Axel, le style, tu...
Non, moi, en fait, j'ai plusieurs points, hein, parce que donc, effectivement, c'est un peu le concept de l'émission quand on est deux en mode cercle, c'est essayer de donner chacun notre avis. Donc moi, en fait... J'ai plusieurs points à aborder, un petit peu. Le premier d'abord, c'est que je trouve que La vie chinoise là, de Li Kunhu, ça s'inscrit dans tout un mouvement de BD autobiographique qui a le vent en poupe en ce moment, même un peu trop. Et en particulier des BD autobiographiques dans lesquelles les auteurs racontent leur enfance dans une dictature. Oui, parce que en fait, à force de parution d'autobiographies en BD, maintenant il y en a de plus en plus, on va finir par pouvoir faire des catégories. Il y a la catégorie autobiographie qui raconte ses vacances, il y a celle qui raconte son travail, il y a celle qui raconte sa maladie, et ça, il y en a vraiment pour tous les goûts en ce moment. Sa famille dysfonctionnelle, etc. Bref, ce soir, c'est de l'autobiographie, mais de l'autobiographie pure, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, et dans un cadre dictatorial. Donc je vais jouer un peu au jeu des références. Mais moi, je compare ça à Persepolis de Marjane Satrapi, qui est la plus connue dans ce style. Donc là, c'est enfance, mais sous la dictature en Iran. Il y a aussi L'Arabe du futur de Riyad Satouf, qui raconte une enfance, mais là, c'est sous plusieurs dictatures. Donc enfance, et puis ensuite, le personnage grandit, et etc. etc.
C'est par rapport à la narration, hein, Axel.
Je parle de l'histoire, moi. Oui,
c'est par rapport à l'histoire. C'est pas le style graphique.
Non, le style graphique, c'est mon deuxième point.
D'accord. Alors,
en fait, par rapport à ta comparaison avec Fred, ça va faire un peu débat de puriste, vu que tout le monde ne connaît pas forcément Fred. Puis moi, je vais en rajouter un peu sur les références. Mais alors moi, je ne l'ai pas vu du tout, le dessin de Fred dans la BD Une vie chinoise. En revanche, j'ai vu des similitudes avec une BD d'auteur argentin, c'est de l'autre côté du monde. Mais ça me fait plaisir en fait de les citer ici, parce que c'est des trucs que j'ai lus quand j'étais petit. C'est Munoz et Sampaio, qui ont un peu les mêmes aplats de noir. Et puis surtout, le style un peu outrancier au niveau des visages et du dessin. Alors moi, je veux juste préciser que j'ai bien conscience que c'est de la référence un poil pointu. Mais comme j'ai vraiment beaucoup pensé en le lisant, je voulais quand même le citer... ici, et je voulais pas faire l'impasse. Un autre point, toujours sur le graphisme, à propos de références graphiques, tu disais qu'en tout en intro de l'émission que tu avais des a priori en fait sur la Chine, enfin, tu avais une vision caricaturale de la Chine. Et moi, en fait, j'en ai aussi, et des trucs qui sont venus de l'enfance et qui sont un peu en rapport avec le graphisme.
C'est des a priori qui viennent d'une méconnaissance, j'allais dire, d'une ignorance crasse
du truc.
Du pays, quoi.
Ouais, ben, moi, pareil, mais sauf qu'en fait, moi, j'ai un vague rapport quand même aux estampes chinoises parce que mes parents, ils avaient un livre caché à la cave qui s'appelait « Jeux des nuages et de la pluie » qui est en fait un recueil de gravures érotiques chinoises, voire franchement porno. Chez moi, il y avait ça, il y avait le petit livre rouge de Mao. Il y avait un livre sur Mao avec plein de photos avec des gens et des têtes coupées. Et puis, il y avait le Lotus Bleu de Tintin. Bonjour les références, hein, tu remarqueras. Bref, moi, en ouvrant ce livre, je pensais en fait retrouver des éléments graphiques des gravures traditionnelles chinoises. Bon, pas forcément des meufs à poil, mais une sorte d'influence, un truc au niveau du graphisme. Je pensais que l'auteur se positionnerait un peu dans ce truc-là, quoi. Mais sauf que... Enfin, et puis tu dis aussi, tu as dit tout à l'heure aussi que Li Kunwu, il est dessinateur de propagande au tout départ dans son métier. Et donc, je pensais vraiment ou à trouver des éléments graphiques traditionnels ou une espèce de style de dessin en mode affiche de propagande, quoi. Et en fait, pas du tout, du tout. Il a vraiment, alors moi, j'irai pas aussi loin que ton analyse. Il a vraiment un dessin très personnel, outrancier, ça, je trouve que l'adjectif est parfait. Moi, ce dessin, il m'a un peu rebuté au départ, mais je suis quand même rentré à fond dedans. Et puis, il faut quand même bien se l'avouer, c'est une des forces de cette BD.
Pour nos éditeurs, il faut préciser, le style de Li Kunwu, c'est pas du tout la ligne claire. Hein. C'est un style très expressif, il revient beaucoup, c'est à la plume, c'est au pinceau, l'encre noire. Après, par rapport aux aplats dont tu parlais là, par rapport à Munoz et à Sampaio, moi je diverge un petit peu, quoi. Mais bon. Mais après, il faut tout plein de références pour faire un monde.
Après, donc un dernier point que je voulais aborder sur la BD, moi, sur ce que je pense de cette vie chinoise, c'est que je trouve le premier tome hallucinant. Je le trouve fort, je le trouve intéressant, je le trouve émouvant, et plein de mots, vraiment plein d'adjectifs gentils, quoi. Et pour expliquer un peu, bon, toi, je t'en ai parlé, mais pour expliquer un peu aux auditeurs, je vais repartir un peu assez loin et vous parler du Lotus Bleu de Tintin, justement, dans mes références chinoises. Dans le Lotus Bleu, moi, je ne me souviens absolument pas de l'histoire du Lotus Bleu, mais je me souviens d'une case dans laquelle ils expliquent que les femmes chinoises, elles ont des petits pieds. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette case, elle m'a marqué, sûrement parce que je la trouvais pas justifiée, enfin peut-être un peu raciste, je sais pas, j'étais petit et je m'en souviens pas, mais en tout cas je me souviens pas de la BD, mais je me souviens de cette case. Et en fait, en lisant la BD, dans le premier tome, il y a une scène hyper forte du début, c'est quand Li Kunwu dessine justement les pieds de sa grand-mère qui a subi cette mutilation que les femmes chinoises ont vécue, à savoir qu'elles avaient les pieds bandés pour avoir des petits pieds, un peu comme les femmes girafes en Thaïlande. Donc, dès le plus jeune âge, on contraignait la croissance de leurs pieds. Et là, eh ben, Li Kunwu représente vraiment, dans des dessins, les conséquences que ça a sur les pieds de sa grand-mère. C'est poignant, c'est révoltant, c'est rageant au plus haut point. Et je pense qu'en plus, ça a un écho dans ma petite tête de lecteur de Tintin qui était marqué par ce truc.
Juste pour dire que Li Kunwu a carrément fait une BD... Les pieds bandés
sur ce sujet-là.
Sur ce sujet-là. Ouais, là, il l'aborde en fait dans une vie chinoise et puis suite à une vie chinoise, les pieds bandés c'était sorti
juste après. Ok, peut-être qu'on le réévoquera un petit peu après. Voilà, ouais. Mais en tout cas, cette espèce de traumatisme des pieds bandés là, enfin que j'ai essayé de raconter un peu, tout le premier tome il est comme ça et il a un écho en fait pour moi, parce que moi j'ai entendu parler du grand bond en avant, enfin je connais l'expression, de la famine en Chine, je sais qu'il y a eu des morts qui ont faim, qu'il y a eu une grosse famine en Chine, je connais la révolution culturelle, mais maintenant que j'ai lu la BD, je sais ce que c'est. Et comme en fait le livre il est très juste et que l'empathie a marché à fond sur moi, le côté enfance, en fait le côté... enfance plus contexte historique et puis contexte historique tellement fort, en fait le mélange des deux fait que ça rend le premier tome hyper puissant, très très puissant et plus puissant que les deux autres. parce que, comme j'ai dit, il y a 3 tomes. Et ça fait que les 2 autres tomes derrière, ils semblent un peu assez fades à côté. Voilà.
Mmh. Moi je, personnellement, si j'avais vécu le quart des traumatismes qu'a vécu Lee Kun-woo dans son enfance, je ne crois pas que je serais là ce soir.
On va marquer une seconde pause musicale après ça. Donc là, on n'est plus dans le punk, on est aux États-Unis. Mais bon. Grass Widow avec Disappearing Factories. On est de retour pour la dernière partie de Kiyokuwa. Donc on vous a parlé d'une vie chinoise de Lee Kun-woo. Et on va finir en fait cette émission en mode cercle par quelques recommandations en fait en lien avec une vie chinoise. Donc des livres... pour rebondir en fait, une fois que vous aurez lu Une vie chinoise, et ben vous pourrez rebondir sur d'autres livres. On va pas rentrer trop dans le détail, on va les présenter rapidement, sauf peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, j'en sais rien, mais en tout cas là on les présente rapidement, quelques recommandations. Je vais commencer si tu veux bien, Vincent. J'en avais plein, mais j'en ai choisi que deux. La première, qui a vraiment qu'un très 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 vague rapport, hein, c'est même limite abusé. La première, donc, c'est un livre de John King qui s'appelle Human Punk. Alors le lien, c'est qu'à un moment, le personnage principal est en Chine. Donc c'est un peu lointain, c'est un peu abusé. Mais je vous avoue que j'y ai pensé, parce que en fait, bon, c'est l'histoire d'un trentenaire qui est anglais, qui a grandi au moment du punk en 77, et puis en fait qui va retrouver tous ses potes, il y a un de ses potes qui meurt, et en fait il revient en Angleterre, il revient de Chine en Angleterre, et puis en fait c'est prétexte à plusieurs flashbacks sur son enfance punk et tout ça. Un livre que j'ai beaucoup aimé, et puis en fait je m'en souviens pas si bien que ça, à part que quand il apprend la mort de son pote, il est dans un train en Chine. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, bon bravo. Et l'autre truc dont je voulais parler, c'est une autre bande dessinée, une BD qui est très chère à mon cœur, donc peut-être que j'essaierai d'en parler ou en cercle ou dans un kiwoko normal. C'est Gen d'Hiroshima. Un manga qui est pas autobiographique, mais qui est inspiré par l'histoire vraie du dessinateur. Bon, je vous le dis pas qui, parce qu'en fait j'ai oublié de le noter, et que j'ai oublié son nom, il y a juste Gen d'Hiroshima, le titre. Et là, en fait Gen, c'est l'alter ego de l'auteur, et qui a vécu l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Et cette BD est hyper forte, hyper poignante. Enfin, c'est la même chose en fait. C'est une enfance. Sauf que là, c'est pas toute l'enfance. C'est pas la naissance, l'enfance, la vieillesse. C'est juste la période d'enfance, l'explosion. L'explosion et puis toutes les conséquences sur cet enfant, sa famille et toutes les conséquences qu'on peut avoir la bombe. C'est une BD qui ça m'y a fait penser. Bon, alors après, surtout pour le côté autobiographique. Après, on est vraiment sur un graphisme de manga. Un truc qui fait 10 tomes, etc. Mais c'est vraiment une BD extrêmement forte, extrêmement puissante, et qui vaut largement le coup d'être lue. Vincent, toi, quelques recommandations ?
Eh ben moi, je, en parlant de recommandations un petit peu lointaines, peut-être un peu tirées par les cheveux, moi j'ai quand même pensé à Harvey Pekar.
Notamment le dessinateur américain
Non, parce que Harvey Pekar, ah oui. Lui ne dessine pas, lui il scénarise. Contrairement à l'Ikunu. Mais tous les deux auteurs ont quand même un point en commun, c'est qu'ils parlent de leur vécu et se mettent en scène dans la bande dessinée. Sinon, j'invite donc les lecteurs à lire et à relire donc Une vie chinoise. Et ensuite, il y a une suite. Il y a Ma génération, celle d'une vie chinoise en deux tomes qui parle pour le coup de la Chine d'aujourd'hui. Donc de nouveau Li Kunwu se met en scène et nous invite nous fait visiter la Chine qu'il connaît. Et si je devais faire la différence entre les deux œuvres, dans Une vie chinoise on se raccroche à une seule ligne narrative, et dans les deux autres tomes de Ma génération, celle d'une vie chinoise, le lecteur est amené à suivre plusieurs parcours de personnes ayant connu comme Li le grand bond en avant, la révolution culturelle, l'enthousiasme et le désespoir.
Ok, ce sera tout pour tes recommandations du jour.
Ouais.
Eh bien, donc, on va clore cette émission. Merci Vincent d'être venu.
Merci Axel de m'avoir accueilli.
Ben non, mais tu vas revenir, tu le sais. On rappelle quand même qu'il y a la fête du livre à Saint-Étienne la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse.
Ouais,
on va pas tous y aller. Moi, par exemple, je suis pas sûr d'y aller, mais je sais qu'il y a des bons auteurs. Que sur le stand de... Bon, là, on est en mode BD, alors sur le stand de L'étrange rendez-vous, il y aura de bons... J'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a des bons invités. Forum, l'une et l'autre, tous les libraires de synthé qu'on aime bien.
Précisons aussi qu'il y a les éditeurs stéphanois qui sont aux 4 rues de la République.
Ouais.
Et faut le dire parce qu'ils seront peut-être pas forcément notés dans le programme officiel.
Ça, oui,
il y a un petit peu la...
Ils n'étaient pas les bienvenus. De
la
ce
fête
que
du livre in et puis la fête du livre off.
Qui commence avec... les éditeurs stéphanois.
Félicitons aussi l'agence Virgule pour sa belle affiche qui nous a gratifié encore d'un visuel somptueux cette année pour cette fête du livre 2018.
Ou qui donne vraiment...
Visuel d'ailleurs qu'on n'avait jamais vu. Hein.
Jamais.
C'est une jeune fille blonde avec un œil bleu. Tout ça nous invite à la diversité et représente bien le...
Vraiment Saint-Étienne.
Représentant bien Saint-Étienne.
Bien, on va finir. Je vais changer de générique. J'ai ressorti un disque. On va s'écouter en fait en générique de fin un morceau qui s'appelle... Je vous le dis en français parce que c'est du chinois. le camarade Mao Tse-tung est le plus grand marxiste-léniniste de notre ère. C'est le générique de fin de Qui ou quoi. On se retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée.
大海航行靠舵手，干革命靠毛泽东思想。毛泽东同志是当代最伟大的马克思列宁主义者。毛泽东同志天才的、创造性的、全面的继承、捍卫和发展了马克思列宁主义，把马克思列宁主义提高到一个崭新的阶段。